Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Alors que le Royaume-Uni s'apprête le 31 décembre prochain à minuit à rompre les amarres qui le lient à l'Union européenne, la relation post-Brexit entre Londres et les 27 reste encore incertaine. Ce qui est sûr, comme le rappelle à chaque occasion Michel Barnier, le négociateur européen du Brexit, c'est qu'il ne peut y avoir les mêmes avantages à être dans l'Union qu'en dehors. Or, les Britanniques aspirent à garder un accès au grand marché européen, sans droit de douane ni quota, tout en appliquant les règles et les normes de leur choix, ce qui complique la négociation depuis le début. Dernier épisode de ce feuilleton sans fin, Européens et Britanniques se donnent encore 2 jours pour arriver à un accord. En cas d'échec, ce sera le no deal. Les relations commerciales de chaque côté de la Manche seront régies alors selon les règles de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, ce qui implique entre autres des droits de douane. De son côté, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a déjà prudemment prévenu ses compatriotes. Ils doivent s'attendre à de probables perturbation à la frontière. Quel Brexit le 1er janvier? Nous allons essayer de répondre à cette question avec nos invités, tantôt dans le studio 41 de RFI, mais aussi par téléphone, crise sanitaire oblige, je vous les présente. Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée LREM Renaissance, vous êtes une ancienne ministre des Affaires européennes. Lord Ricketts, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien ambassadeur du Royaume-Uni en France. Merci d'être en ligne de Londres. John Henley, bonjour. Bonsoir.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant du quotidien britannique The Guardian, en charge des questions européennes. Et à mes côtés, Jean-Dominique Giuliani. Bonjour, Jean-Dominique Giuliani.
Bonsoir.
Vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Et puis, comme chaque semaine, nous ferons un petit détour par la rédaction de Courrier International. Ce dimanche, ce sera avec Sacha Mitchell. Mais avant de parler du Brexit, je voudrais que les uns et les autres vous réagissent en quelques mots à la disparition de l'Européen convaincu que fut Valéry Giscard d'Estaing. Il militait pour les États-Unis d'Europe qui n'ont toujours pas vu le jour, et sans toutefois entrer dans une évocation historique de Giscard l'Européen, il est celui tout de même qui a relancé une Europe composée à l'époque de 9 pays seulement. C'était un autre temps, avec 3 initiatives qui marquent encore aujourd'hui la construction et la vie des institutions européennes. La création du Conseil des chefs d'État, aujourd'hui les chefs d'État et de gouvernement européens se rencontrent pratiquement tous les 15 jours, mais avant 1974, il n'y avait eu que 3 réunions au sommet en 5 ans, c'est dire. Deuxième initiative, la mise en place du système monétaire européen qui donna naissance 20 ans plus tard à l'euro, notre monnaie commune, et puis l'élection au suffrage universel des députés européens du Parlement européen de Strasbourg. Initiative rendue possible grâce à la très bonne entente entre le président français et le chancelier de l'époque, le chancelier allemand Helmut Schmidt, très bonne entente qui établit ce fameux couple franco-allemand. Alors, Nathalie Loiseau, que retenez-vous de Giscard l'Européen qui vous a permis d'être quand même élu au Parlement européen?
Alors, il m'a surtout permis d'être élu au suffrage universel, et là, c'était une intuition évidemment extrêmement forte, extrêmement importante. L'Europe ne peut avancer que si elle est démocratique. Et de ce point de vue-là, je lui suis évidemment reconnaissante. Je dirais que c'était un grand Français en Europe. Je ne sais pas si je dirais un grand Européen, son attachement au rôle du Conseil, à la fois je le comprends, et on sait aussi que c'est un attachement à ce qui est surtout intergouvernemental et pas tout à fait un transfert de compétences à l'Union européenne. Donc c'était d'abord un grand Français.
Jean-Dominique Giuliani, vous avez connu Valéry Giscard d'Estaing au tout début de votre vie professionnelle, vous avez même travaillé avec lui.
Oui, j'ai travaillé avec lui, et jusqu'à une date récente, en plus, nos deux fondations, puisqu'il a créé une fondation, continuent à travailler. Nous avons fait des missions avec lui dans différentes capitales européennes, et nous remettons chaque année, c'était d'ailleurs dans ces jours prochains, un prix pour les jeunes étudiants méritants qui travaillent sur l'Europe. Moi, ce que je retiens de lui, c'est un homme pragmatique et concret, animé par une très profonde conviction, vraisemblablement, on l'oublie d'ailleurs, forgé dans la guerre, puisque très jeune, il a participé à la guerre dans la division Leclerc, il était en Allemagne, et ses convictions étaient profondément pacifiques, enracinées, et il était toujours tourné vers l'avenir, quel que soit son âge, et vu et encore pas très longtemps, c'était étonnant, même si physiquement il était diminué, son esprit était toujours lumineux.
Mais dans le cas de ce, si les Britanniques peuvent quitter l'Union Européenne via le Brexit, nous allons voir que c'est plutôt compliqué, hein, c'est pas facile, c'est grâce à Valéry Giscard d'Estaing qui, en tant que président de la Convention pour l'avenir de l'Europe au tout début des années 2000, a imaginé une clause qui permet à un pays qui veut quitter l'Union Européenne de pouvoir le faire, et jusqu'à cette date, ce n'était pas possible, donc merci Valéry Giscard d'Estaing qui a permis ce Brexit, Peter Ricketts.
Oui, il n'est pas connu pour cela, mon pays, particulièrement. C'est un grand homme d'État, avec une intelligence lumineuse, un vrai sens du multilatéralisme. Je me retiens surtout de l'avoir reçu comme ambassadeur à la résidence à Paris pendant la visite d'État de la Reine. Et on avait là, dans le salon, deux des grands personnages de leur siècle. Ils avaient exactement le même âge, ils se sont très bien connus, bien sympathisés. Ils parlaient bien anglais aussi. Et surtout, à son labrador noir que la reine lui a donné en cadeau pendant sa visite d'État ici en 76.
Ah, donc il y a eu un petit moment d'émotion entre Jugurtha, la reine
Jugurtha,
et le président français.
Absolument. Non, et c'était... il a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs ici, mais le souvenir de son labrador noir, avec lequel le président parlait exclusivement en anglais, reste fort ici aussi.
Eh bien, merci pour cette anecdote, Peter Ricketts. Venons-en au Brexit, John Henley. Les Britanniques ont voté le 23 juin 2016 pour quitter l'Union européenne. Nous sommes le 6 décembre 2020. Il s'est écoulé 4 ans et demi depuis le vote des sujets de Sa Majesté Elisabeth II. Je ne vais pas rappeler toutes les dates qui ont jalonné cet interminable feuilleton du Brexit, mais tout de même, celle-ci, le Royaume-Uni a quitté formellement l'Union européenne le 31 janvier dernier. Depuis lors, la Grande-Bretagne et l'Union européenne vivent une période de transition où Londres applique les règles de l'Union, et ce jusqu'au 31 décembre à minuit, c'est l'heure de Bruxelles, ça fera 23 heures heure de Londres. Alors cette période de transition de 11 mois aurait dû permettre aux deux parties de conclure un accord sur la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Or il n'en est rien, John Henley, alors que l'accord aurait dû être bouclé il y a un mois, Boris Johnson et Ursula von der Leyen, donc le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne, se sont donné encore 48 heures pour tenter d'arriver à un accord. Michel Barnier et David Frost, respectivement les deux négociateurs en chef, sont en ce moment même à Bruxelles dans ce qui pourrait être la dernière ligne droite. John Henley, on a quand même l'impression que en 11 mois, il ne s'est pas passé grand-chose. On a l'impression qu'on a fait du surplace. C'est une vraie impression ou c'est peut-être une illusion?
C'est moitié vrai, c'est moitié faux. En fait, il s'est passé beaucoup de choses. Il existe un accord qui, si je dois croire ceux qui semblent le savoir, il compte à peu près 600 ou plus de 600 pages. L'accord sur la relation future entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne a été, les deux parties sont d'accord sur à peu près 95% de cet accord, de cette relation, mais ça coince sur trois grands blocages. C'est les mêmes trois sujets qui ont été identifiés très très tôt dans le processus, c'est-à-dire la pêche, la gouvernance, c'est-à-dire qui va arbitrer en cas de dispute entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne dans l'avenir, et finalement cette question très épineuse de ce qu'on appelle en anglais the level playing field, qui est en gros la concurrence équitable, c'est-à-dire comment s'assurer que la Grande-Bretagne continue de suivre les normes et les standards et les règles de l'Union européenne. Ces trois questions, comme je dis, ont été identifiées vraiment très tôt dans le processus. Je pense que sur les trois, celle de la pêche est celle qui est peut-être la plus facile à trouver un accord, dans le sens où c'est une négociation, si je peux dire, classique, c'est-à-dire qu'il suffit que chaque côté cède un petit peu et il y a un accord à trouver sur quelque chose de très concret. De très concrète. Le problème, c'est avec les deux autres, c'est la gouvernance et la concurrence équitable, parce que là, on touche sur des questions vraiment fondamentales du Brexit et des Brexiteurs, c'est-à-dire ces questions de souveraineté, d'indépendance. En fin de compte, le Brexit, ça a toujours été un projet surtout idéologique. Et donc, pour les Britanniques, cette idée qu'il va falloir se soumettre aux règles européennes dans l'avenir et à une justice européenne dans l'avenir sont tout simplement inacceptables.
Inimaginable. Pour les Britanniques. Nathalie Loiseau, le diable est dans les 5% qui restent, dirait John Hanley. Que veulent vraiment les Européens? Est-ce que la position des Européens est très très claire?
Alors, je crois qu'elle est extrêmement claire depuis le début. Ce qui est problématique, c'est que, comme le disait l'interlocuteur précédent,
John Hanley.
On a du côté des Britanniques beaucoup d'idéologie et assez peu de pragmatisme. On reproche souvent aux Européens d'être idéologues et on loue les Britanniques pour leur pragmatisme, mais dans cette négociation, c'est le contraire. Il a raison de dire qu'il y a un enjeu de souveraineté, mais personne en réalité ne conteste la souveraineté britannique. La seule question qui se pose, et c'est vraiment la seule, c'est si le Royaume-Uni décide de diverger des standards européens en matière d'environnement, en matière de santé, en matière de normes sociales. Il peut le faire, mais cela doit avoir des conséquences sur l'accès au marché unique et sur le partenariat économique en général. Ce que les Européens offrent au Royaume-Uni, c'est un partenariat sans précédent. Ce que demandent les Britanniques jusqu'à maintenant, c'est le beurre et l'argent du beurre. C'est le partenariat sans précédent, mais sans conséquences, qu'ils divergent de nos normes. Et ça, naturellement, ça n'est pas acceptable.
Lord Ricketts, Peter Ricketts, les Britanniques veulent le beurre, l'argent du beurre et le reste, c'est un peu ça la position des Britanniques aujourd'hui encore? Pour reprendre ce que vient de dire Nathalie Loiseau.
Pas tout à fait. Je pense qu'on est arrivé aux points les plus difficiles parce qu'ils sont très politiques. Et à mon avis, les deux côtés sont un peu un dialogue des sourds en ce moment. C'est-à-dire, le côté européen cherche très justement des détails techniques, juridiques, pour s'assurer, par exemple, sur la concurrence. Les Britanniques cherchent surtout les symboles politiques de la souveraineté regagnée par le Royaume-Uni. Alors, ce n'est pas qu'ils cherchent à faire une course vers le bas sur le dumping environnemental ou sociétal, mais plutôt qu'ils ne veulent pas être redevables devant l'Union européenne pour suivre les changements de réglementation. Alors, c'est ça, je pense, c'est cette différence entre les besoins techniques et les besoins politiques qui est le plus difficile. Je suis d'accord avec John Hanley pour dire que la pêche ne devrait pas être le plus difficile, parce que finalement, il faut un accord. S'il n'y a pas un accord, il n'y aura pas d'accès du tout pour les pêcheurs français aux eaux territoriales britanniques. Alors c'est dans l'intérêt des Français et des autres Européens de pousser fort, mais ne pas pousser à la rupture sur la pêche, qui n'aura pas de sens.
Alors on va revenir un peu en détail au cours de cette émission sur les trois points qui bloquent la pêche, les règles de concurrence équitable et le mécanisme des règlements en cas de différend. Jean-Dominique Giuliani, il y a un mot que vient d'employer Peter Ricketts, qui est le mot souveraineté, qui est à la base du Brexit. Les Britanniques veulent retrouver leur souveraineté à travers le Brexit, mais cette souveraineté, évidemment, on comprend que les Britanniques veulent la retrouver, mais il existe aussi une souveraineté européenne que peut-être les Britanniques ont sous-estimée.
Oui, enfin, vous savez, dans cette affaire-là, j'ai l'impression que cette revendication de la souveraineté, c'est quand même la preuve d'une conviction portée par Boris Johnson et une partie des conservateurs que dans la globalisation, l'idée de se mettre ensemble et d'additionner nos compétences comme le font les Européens, c'est pas vraiment la bonne idée pour les Britanniques. Ils sont persuadés qu'ils peuvent jouer leur partition à part, que ils peuvent s'abstenir d'être appartenir à un grand ensemble, et que donc cette revendication de la souveraineté, c'est le sentiment de dire, ben écoutez, nous avons été le plus grand empire de la planète, ils cultivent d'ailleurs cette nostalgie, nous avons encore beaucoup de ressources, ce qui est vrai d'ailleurs, pour pouvoir jouer notre partition tout seul dans notre coin, et tirer parti un jeu solitaire que l'île et les îles britanniques ont toujours quand même caressé avec cette idée, nous avons une vision globale, et puis d'accord, la Chine est un grand ensemble, d'accord, les États-Unis, bien sûr l'Europe, mais enfin, tout seul, on se débrouillera très bien, et d'ailleurs, nos citoyens sont résilients, résistants, ils vont accepter qu'il y ait des centaines d'hectares de parking pas loin dans le Kent à partir du 1er janvier et que ce soit très difficile de passer la frontière, ils vont l'accepter, ça c'est le postulat de Boris Johnson, parce que finalement le Royaume-Uni existera toujours et trouvera le moyen de tirer son épingle du jeu.
Alors à ce stade du débat de notre discussion, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
C'est un contre-pied que nous offre The Observer cette semaine avec une tribune signée d'un professeur reconnu outre-Manche et qui insiste sur l'importance de ne pas se précipiter vers le fédéralisme et de respecter les souverainetés nationales au sein de l'Union européenne sous peine de tuer l'idéal européen.
L'Europe a-t-elle retenu la leçon du Brexit? Pas vraiment, ou du moins pas encore, à en croire Vernon Bogdanore. Pour ce célèbre constitutionnaliste britannique, l'UE est en train de commettre une erreur avec la dette commune contractée pour le plan de relance spécial Covid-19. À l'instar des crises précédentes, la pandémie incite aujourd'hui à une accélération de l'intégration européenne, déplore Bogdanore dans les colonnes de The Observer. Rares, pourtant, sont ceux en Europe qui ont hâte d'enfouir leur identité nationale au sein d'une fédération, assure le professeur. La plupart cherchent à défendre leurs intérêts nationaux de manière constructive dans le cadre d'une coopération européenne. Il s'agit là d'un tiraillement constant et historique entre deux visions de l'UE, une Europe supranationale et une Europe intergouvernementale. Lorsque ce fragile équilibre est perturbé et que les politiques supranationales s'immiscent sur le terrain des identités nationales, la réaction populaire est inévitable. Et cette réaction la plus spectaculaire, donc, eh bien, c'est la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour Vernon Bogdanore, l'UE doit demeurer donc une organisation essentiellement intergouvernementale au sein de laquelle les pays membres pourraient, par le biais du Conseil européen, choisir le rythme de leur coopération. Et le constitutionnalisme va même plus loin. Paradoxalement, le Royaume-Uni et la France gaulliste même à l'époque ont été des fers de lance du développement européen avec leur insistance sur la préservation des souverainetés nationales. 4 ans après le référendum, en tout cas, le Brexit n'est donc toujours pas une aberration, conclut Bogdanore. Au lieu d'applaudir ou de le condamner, après tout, il appartient désormais au passé, l'UE doit retenir ceci. L'Europe n'a pas besoin de plus d'Europe, mais d'une Europe meilleure. Le supranationalisme représente aujourd'hui une menace pour l'idéal européen et non un moyen d'y parvenir.
Merci Sacha Mitchell, Courrier International, Hebdo et Courrier International.com, le site. John Henley, c'est une réflexion qui illustre bien l'état d'esprit des Britanniques qui n'ont jamais été très très à l'aise avec la construction européenne.
Oui, c'est-à-dire que les Britanniques ont longtemps pensé plutôt que l'Union européenne devrait être que un marché, en fait. C'était l'aspect commercial surtout que les Anglais appréciaient. D'ailleurs, c'était Margaret Thatcher qui a vraiment joué un rôle extrêmement important dans la création de ce marché unique. Le problème, évidemment, c'est que pour les Anglais, et c'est ça ce qu'on a vu pendant la campagne pour le Brexit, ils ont toujours eu une relation un petit peu différente avec l'Union européenne. D'abord, de par leur histoire, leur géographie, ils n'ont pas vécu la guerre de la même manière. Il n'y a pas eu ils n'ont pas été occupés, par exemple. Donc le but, si je peux dire, original de l'Union européenne, c'est-à-dire un projet de paix ça n'a jamais vraiment eu le même impact, la même importance en Grande-Bretagne. Et surtout, j'ai l'impression, et ça aussi, on a vraiment, ça a été confirmé pendant le référendum et surtout depuis, il y a énormément d'incompréhension en Grande-Bretagne de ce que c'est réellement l'Union européenne. On a vu des fantaisies, des mensonges, et surtout les Brexiteurs, évidemment, ils ont présenté l'Union européenne comme une sorte de bah, ça a été même été comparé par Boris Johnson même, donc le Premier ministre britannique, à un moment il a comparé l'Union européenne avec pas évidemment dans le détail, mais avec les ambitions napoléoniennes ou hitlériennes même. Donc ça a toujours été présenté aux Anglais comme une sorte de voilà comme une sorte de d'empire méchant, oui, qui voulait
donc il fallait se méfier,
étouffer leur indépendance et leur souveraineté. Et ouais, voilà, évidemment on a vu la conséquence avec le résultat du référendum.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, quel Brexit au 1er janvier prochain. Nous sommes avec Nathalie Loiseau, eurodéputée LREM Renaissance, avec Lord Ricketts, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en France, avec John Henley, correspondant du quotidien britannique The Guardian, et avec Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Nathalie Loiseau, on l'a déjà dit, la pêche est un sujet hypersensible pour les Européens du continent, et un sujet très idéologique pour Boris Johnson. C'est vrai que les Européens ont beaucoup à perdre, notamment les 8 pays qui pêchent dans les eaux très poissonneuses britanniques.
Les uns et les autres, on a à perdre. Et c'est un peu désolant de voir que sur ce sujet de la pêche, au lieu d'essayer de continuer dans une coopération qui date de bien avant l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne, je ne parle même pas de sa sortie, mais bien avant, finalement, on en a fait un sujet idéologique et symbolique là où ça ne devrait pas l'être. Ça fait des siècles que les Européens pêchent dans des eaux qui sont devenues britanniques depuis assez peu de temps. Ça fait des décennies que les produits de la pêche britannique sont très peu consommés au Royaume-Uni, sont essentiellement exportés en Europe, où ils sont transformés et consommés en Europe. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'accord, non seulement les pêcheurs européens perdent l'accès aux eaux britanniques, les pêcheurs britanniques perdent l'accès aux côtes européennes où ils ne manquent pas de pêcher, mais ils perdent aussi l'accès aux marchés européens, aux usines de transformation européennes. Donc il n'y a aucun gagnant, alors que jusqu'à présent, il y avait une politique commune de la pêche qui fonctionnait pour tout le monde. On a le sentiment, et je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure par Lord Ricketts, on a le sentiment que au-delà du départ de l'Union européenne, le gouvernement britannique ne veut pas seulement quitter l'Union, mais quelque part, il veut se venger de l'Union européenne. Il veut faire payer l'Union européenne. Il veut que l'Union européenne souffre. C'est une des grandes difficultés de la négociation actuelle. On devrait être en train de construire un partenariat aussi bénéfique que possible pour les deux parties. Et ce n'est pas le climat des déclarations politiques britanniques. J'ai écouté tout ce qui a été dit dans les talk shows du dimanche matin par des officiels britanniques et je me désolais de voir ce ton de revanche, ce ton d'agressivité, alors que l'objectif, c'est d'être capable de signer un accord au plus tard demain soir. Ça n'est pas le bon climat pour ce type de négociation.
Peter Holcutt, vous n'êtes pas le porte-parole de Boris Johnson, mais je suis sûr que vous avez envie de réagir aux propos de Nathalie Loiseau.
Oui, c'est ma difficulté sur cette émission. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement britannique et j'ai beaucoup, beaucoup de sympathie pour ce qui a été dit. Mais je ne suis pas sûr que le gouvernement Johnson veut se venger contre l'Union européenne. C'est plutôt rompre les liens avec l'Union européenne tout en gardant les liens bilatéraux avec les pays européens. Là, c'est quand même pas facile et je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette approche. Mais le sujet de la pêche, qui est une toute petite chose pour l'économie britannique, c'est 0,1% du PIB, si je me trompe. C'est symbolique. C'est symbolique qu'en fin de notre période comme membre de l'Union européenne, les pêcheurs britanniques doivent avoir la souveraineté sur leur eau territoriale. Je suis d'accord avec Nathalie Loiseau que c'est pas absolument cohérent comme point de vue. Mais le côté européen, à mon avis, a un peu surdemandé sur cette question-là, en demandant accès qui va continuer pour 10 ans, à peu près au même niveau qui existe actuellement. Comme John Henley a dit tout à l'heure, ça doit être possible à résoudre ce problème. Pour le moment, ça c'est devenu un peu iconique de la souveraineté britannique, mais je ne pense pas que ce serait là la chose qui bloque finalement.
Un ce grand point de blocage. J'en ai bien que Julien, donc on va laisser la pêche de côté. Les deux autres points qui bloquent, c'est les règles de concurrence équitable, ça, en matière sociale, environnementale, fiscale, d'aide étatique. Ça veut dire que si le Royaume-Uni retrouve sa souveraineté économique, eh bien, il peut avoir des normes plus légères, moins sociales, moins riches, moins contraignantes en termes environnementaux, aider les entreprises en difficulté, etc. Et donc créer une concurrence défavorable aux entreprises de l'Union européenne, c'est évidemment un point important. Et là, l'Union européenne est très contraignante. De la même façon, en cas de différend, qui va arbitrer ce différend s'il y a un différend de chaque côté de la Manche ?
Non, sur le premier point, c'est très simple. Le Royaume-Uni a le droit de faire ce qu'il veut à partir du moment où il a quitté l'Union européenne. Mais il n'a pas le droit en même temps de vouloir revendiquer l'accès au marché intérieur européen, ce qui est pour lui un énorme bénéfice.
Et on peut rappeler évidemment le Royaume-Uni exporte beaucoup plus vers l'Union européenne que l'Union européenne.
Pratiquement la moitié de son commerce dépend importation exportation, un peu moins de la moitié dépend de ses relations avec le continent.
Alors que l'inverse, c'est environ 7-8%
absolument
des produits de l'Union européenne qui vont vers le Royaume-Uni.
Absolument. Alors il y a des exemples, n'est-ce pas ? Nous avons par exemple avec la Norvège, qui n'est pas membre de l'Union européenne, un accord très étroit, et la Norvège a accès au grand marché européen. Elle paye plus de 700 millions d'euros par an à l'Union européenne pour avoir accès, et elle a en contrepartie des obligations sociales, réglementaires, tout ça c'est fait par traité. C'est ça que veut l'Union européenne, et c'est ça que ne comprennent pas les Britanniques en réalité. Ils ont l'impression qu'on veut leur imposer des normes, on ne veut leur imposer que s'ils veulent la liberté d'être, que nous avons créé ce grand marché intérieur qui est finalement la principale richesse, le principal asset, on dirait, au Royaume-Uni, de l'Union européenne. C'est ce marché-là qui lui donne le poids sur la scène internationale. Négocier des accords commerciaux, imposer des normes environnementales, c'est ce qui est en train de se passer avec le Green Deal européen. On voit bien qu'aux États-Unis, en Californie, on regarde les normes européennes en matière d'environnement. Et donc, l'Union européenne dit, si vous voulez avoir accès au marché, vous vous comportez comme un partenaire loyal. Vous allez vous engager à suivre les évolutions législatives en matière d'environnement, en matière sociale, en matière de droit du travail, etc. Et si vous voulez pas le faire, ben, ayons au moins la possibilité d'en discuter d'une manière à peu près égale et raisonnable. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à mettre au point. Alors, évidemment, nous avons la Cour de justice qui est en quelque sorte le
grand tribunal européen, je veux dire comme ça.
Absolument. Et donc, on comprend très bien que les Britanniques ne le veulent pas, mais qu'on trouve un mécanisme identique mettons tout de suite sur le papier le fait que si nos normes divergent, eh bien, il y aura des conséquences. Comme le disait Nathalie Loiseau tout à l'heure, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
John Henley, difficile question que je vais vous poser. On sent bien que il y a quelqu'un qui vit, même si c'est David Frost qui est le négociateur officiel pour le Royaume-Uni dans ce Brexit, le personnage central et celui qui donnera le « là » et son feu vert, c'est Boris Johnson. Est-ce que vous savez, vous, John Henley, ce qu'il y a dans la tête de Boris Johnson ? Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'il veut précisément ? Parce que moi, je vois pas, mais peut-être que vous, si.
C'est une très, très bonne question. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a personne qui le sait. Et je ne suis pas sûr du tout que Boris Johnson lui-même le sait encore. Le problème, en fait, Daniel, c'est le problème qui a été là, et c'est le même problème depuis le début. Il va falloir que Boris Johnson lui tranche. il est dans une situation où il doit peser. Il doit prendre une décision essentiellement politique. Il doit peser le coût économique certain d'un no deal qui a été chiffré jusqu'à 6% du PIB sur les 15 années à venir. Donc un coût économique certain pour le pays.
Qui s'ajoute au coût du Covid, qui est commun à tous les pays de l'Union européenne et même du monde.
Ça rentre dans l'équation, dans le sens où les coûts du Covid, le gouvernement pourrait essayer, en cas de no deal, pourrait être tenté de faire passer les coûts du Brexit sous le coût, si vous voulez, de la catastrophe économique du Covid. Mais l'autre côté de ce dilemme pour Boris Johnson, c'est donc le coût économique du Brexit contre le coût politique personnel et pour son parti, les conservateurs, d'un deal. C'est-à-dire que si Boris Johnson, les Brexiteurs, ils ont toujours promis la Lune depuis le début. Ils y ont promis, comme a dit Nathalie Loiseau, que ce serait possible de garder tous les avantages d'être membre de l'Union européenne tout en l'acquittant. C'est évidemment pas possible, mais en admettant cela, en admettant qu'il y aura un coût pour du Brexit, un coût au Brexit, Boris Johnson va encaisser un sacré coup politique. Il va devoir, s'il cherche un deal, il va devoir admettre qu'il a dû céder à l'Union européenne, aux exigences de l'Union européenne. Et ça a pour lui un coût politique certain et très important. Et c'est entre ces deux options-là qu'il doit trancher, qu'il doit choisir, et il bascule, il hésite, il tergiverse, pour l'instant, il a clairement pas tranché, et on ne sait pas pour laquelle des deux options il va finalement choisir.
Et on est à 25 jours du jour fatidique du 31 décembre à minuit, où ça, c'est incontournable, le Royaume-Uni quittera, aura largué les amarres avec l'Union européenne, accord ou pas. Dans tous les cas de figure.
Exactement. Je pense qu'on a, évidemment, il va falloir que ce deal, si deal il y aura, il va falloir que ce deal soit ratifié par le Parlement européen, par le Parlement britannique, que ce soit aussi approuvé dans les capitales. Hein, oui. Ça, il ne faut pas oublier un accord entre les négociateurs, entre David Frost et Michel Barnier, ça ne veut pas dire forcément un accord qui sera approuvé par Paris, par Berlin, par Copenhague, par La Haye, par toutes les autres capitales de l'Europe. Donc il va falloir trouver cet accord, si c'est à trouver, dans les 48 heures, les 2, 3, peut-être 4 jours à venir. Sinon, on est très bien parti pour un no deal.
Nathalie Loiseau, on connaît l'habileté de la diplomatie britannique et on s'attendait au début du Brexit à ce que les Britanniques divisent les Européens, ce qui n'a pas été le cas jusqu'alors. Je dis jusqu'alors parce que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Angela Merkel semblent vouloir un accord à tout prix, alors que Clément Beaune, le secrétaire d'État français aux affaires européennes, explique à qui veut l'entendre qu'il vaut mieux pas d'accord du tout qu'un mauvais accord, et que la France menace de poser son veto en cas de mauvais accord. Alors, est-ce que les Européens sont toujours si uniques ça aujourd'hui encore, Nathalie Loiseau?
Cher Daniel Desesquiel, je crois que vous êtes atteint du syndrome du lecteur de la presse britannique. En fait, ça fait des années que la presse...
On en guérit, rassurez-moi, on en guérit.
Écoutez, j'en suis atteinte aussi, parce que je la lis énormément, mais après je prends du recul. Ça fait des années, depuis très longtemps, que les Britanniques sont persuadés que l'Union européenne, c'est un endroit où on peut diviser pour régner. De nombreux premiers ministres britanniques ont tenté le coup, David Cameron lui-même, ça ne lui a pas tellement réussi. Et depuis le référendum de 2016, on n'a jamais cessé de lire que finalement les Européens étaient sans doute divisés. Souvenez-vous, dans la négociation de l'accord de retrait, une grande partie des responsables politiques britanniques doutaient que les Européens resteraient solidaires de l'Irlande dans la discussion sur le sort de l'île d'Irlande. Ils se sont lourdement trompés. Alors, depuis quelques jours, on lit qu'il y aurait good cop and bad cop. Une Allemagne prête à signer quasiment à tout prix. Alors qu'à chaque fois qu'Angela Merkel s'exprime, elle dit toujours qu'il n'y aura pas un accord à n'importe quel prix. Et une France qui serait finalement la plus dure de la bande. Moi, ce que je peux vous dire, pour avoir été à la fois au gouvernement français et maintenant au Parlement européen, c'est que la France, elle a simplement un rôle particulier, celui du pays géographiquement le plus proche avec l'Irlande du Royaume-Uni, celui qui a un commerce et des échanges de tous ordres extrêmement denses avec le Royaume-Uni, c'est celui de parler pour les autres, et parfois de parler plus fort que les autres. Mais jamais ce que nous avons dit n'a été contredit par les autres Européens. Et en ce moment, à l'heure où nous parlons, au moment où David Frost et Michel Barnier sont en train de discuter, le sujet qui reste toujours pas résolu, c'est ce fameux sujet de l'accès au marché européen selon des conditions de concurrence loyale. Il n'y a pas un seul État membre de l'Union européenne, il n'y a pas une seule entreprise européenne qui serait prête à donner l'accès au marché unique avec des conditions de dumping pour les entreprises britanniques. Donc il y a beaucoup de scénarisation, il y a beaucoup de propagande en fin de négociation, c'est habituel, il faut garder son calme comme le fait très bien Michel Barnier, mais l'idée que à la dernière minute les Européens se diviseraient, c'est une preuve de plus de cette difficulté culturelle à comprendre l'Europe. Parce que s'il y a un sujet où il faudra l'unanimité pour donner un feu vert à un éventuel accord, c'est bien le Brexit. Il faudra que les 27 États membres soient d'accord. Et c'est toute la difficulté de la négociation, mais c'est aussi toute la force de la position des 27.
Alors, le 4, 2 jours de négociation, hein, 48 heures encore de négociation. Michel Barnier, donc, le négociateur de l'Union européenne, se dit modérément optimiste, je le cite, nous verrons si nous pouvons avancer. On a l'impression qu'on est dans un jeu de poker menteur, et à ce jeu, souvent les Britanniques sont pas mauvais, Lord Ricketts.
Mais on a le théâtre qui est assez classique, enfin, de négociation. Mais on a aussi les points de substance que nous avons évoqués. Et finalement, il y aura des choix à faire, surtout par Boris Johnson, comme les autres ont dit. Il doit trouver la volonté d'affronter les Brexiteurs durs dans son parti. Je ne suis pas convaincu qu'il aura un coup dur s'il ferait ça. S'il décide d'aller pour un deal, qui est quand même 800 pages avec 1000 pages d'annexes, qui est quand même assez signifiant, je pense qu'il aura un large soutien au Parlement britannique. C'est un petit deal, il faut le rappeler. C'est un deal sur l'accès au marché unique pour les biens, mais pour les services, non, pas du tout. Alors, ce n'est pas du tout ce que nous avons actuellement. Moi, personnellement, je le regrette beaucoup. J'espère qu'il va trouver cette volonté pour affronter les durs et pour avoir ce deal qui est beaucoup mieux que nos deals. Qui nous laisse vraiment très séparés, sans la possibilité de reconstruire dans les prochaines années. J'espère bien que si on fait cette petite deal, on fera quand même l'effort de le reconstruire au fur et à mesure des années, quand la situation politique s'apaise. Et ce que j'appelle de tous mes voeux.
Jean-Dominique Giuliani, vous partagez un peu cet optimisme, à savoir que, relatif hein, de Lord Ricketts, à savoir que, bon, c'est un pas, et de toute façon, il faudra renégocier, continuer de négocier pour les autres domaines qui ne sont pas abordés, parce que là, on ne discute là que de l'accord commercial, hein, de l'accès au marché unique, il y a tout le reste.
J'en suis convaincu, et de la part de Lord Ricketts, c'est pas de l'optimisme, c'est de l'expérience, je pense. Car, quelle que soit l'issue de cette négociation, là, pour l'instant, moi, je suis plus pessimiste sur le fait d'avoir un accord, mais je n'en sais rien, comme tout le monde. Quelle que soit l'issue...
Vous n'êtes pas dans la tête de Boris Johnson, c'est ça?
Non, certainement pas, ni dans les cheveux, d'ailleurs. Et donc, je suis convaincu qu'il y a tellement de choses concrètes à régler que l'Union européenne, comme les Britanniques, ne peuvent pas voir dysfonctionner, que ce soit pour les citoyens, que ce soit pour le commerce, que la négociation va durer très longtemps encore. Les discussions vont durer très longtemps. Sur le plan financier, l'Union européenne a fait un geste en repoussant d'une année, d'ailleurs, en fait, les problèmes que la finance britannique peut avoir avec son l'absence de passeport, etc. Donc c'est un geste très significatif qui ne peut pas être durable. Il y aura des discussions à mener sur le plan financier compte tenu des liens extrêmement étroits entre la City de Londres et les entreprises européennes. Donc, si vous voulez, on va continuer à discuter quoi qu'il arrive. Et croire que le 1er janvier, tout le monde va s'arrêter et qu'on va bloquer la frontière, je n'arrive pas à y croire, même si c'est vrai, il va y avoir beaucoup plus de difficultés. On devra continuer à discuter, et je crois d'ailleurs que les Européens en sont convaincus. Il y a des tas d'exemples qui l'expliquent. Les ailes des Airbus sont fabriquées au Royaume-Uni, donc on ne peut pas accepter du jour au lendemain qu'elles coûtent 15% plus cher pour l'entreprise elle-même et pour le continent. Donc il y a toute une série d'exemples qui montrent que les liens tissés vont nous obliger à continuer à discuter. Et Lord Rickett a raison de dire qu'il faut de dépolitiser cela, c'est le plus difficile pour Boris Johnson. Le choix lui appartient, parce que les Européens, eux, ils peuvent pas transformer leur modèle. Ils sont attachés au droit, ils ont construit quelque chose qui est fragile, mais qui est très bénéfique, le marché intérieur, la libre circulation. Ils ne peuvent pas revenir en arrière, parce qu'ils sont 27, et que tout ça est figé dans des traités.
Nathalie Loiseau, alors évidemment, vous n'avez pas de boule de cristal, mais mini-deal, no-deal, on s'oriente vers quoi? Et sachant que, comme vient de l'expliquer Jean-Dominique Julianis, s'il y avait un no-deal le 31 décembre, ce n'est évidemment pas la fin de l'histoire.
Alors d'abord, peut-être un petit désaccord avec les interlocuteurs précédents. Le mini-deal, ça n'existe pas. Ce qu'on est en train de discuter avec les Britanniques, c'est un accord de partenariat sur tout un tas de secteurs qui vont de l'énergie aux qualifications professionnelles, en passant par la coopération policière et judiciaire. C'est pas du tout seulement un accord commercial. Et quand parfois on entend des Britanniques dire « Bon, ben, on n'a qu'à faire la libre circulation des biens et des services sans tarifs et sans quotas et on verra après », s'il n'y a pas de level playing field, s'il fallait mettre des quotas dans un accord, ça prendrait en moyenne, c'est ce qu'on voit dans les autres accords que signe l'Union européenne avec des États tiers, entre 8 et 10 ans au mieux. Donc il y a un risque tout à fait sérieux, tout à fait réel, qu'il n'y ait pas d'accord à la fin de cette année.
Ce qui se traduirait par donc l'application des règles de l'OMC, des droits de douane et des quotas. Et donc un renchérissement des produits britanniques en Europe et un renchérissement des produits européens au Royaume-Uni.
Dans les deux sens. Mais pour combien de temps? C'est là la question. On ne restera pas, l'Union européenne et le Royaume-Uni ne resteront pas sans accord de partenariat. On en a avec tout un tas de pays. Il est évidemment inconcevable de penser qu'on n'en aurait pas avec le Royaume-Uni. Mais moi, je retiens une phrase que répétait très souvent Theresa May, qu'on a beaucoup moquée et à mon avis à tort. Elle a beaucoup souffert des crasses que lui faisait Boris Johnson, qui l'empêchait d'avoir une majorité au Royaume-Uni. Mais c'était un Premier ministre qui faisait son travail, et je dirais même qui faisait son devoir. Elle répétait très souvent, il vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord. Et je fais mienne cette affirmation. Aujourd'hui, une absence d'accord, c'est un mauvais moment, un vrai mauvais moment à passer, pour les Britanniques surtout, pour les Européens aussi, mais d'une manière beaucoup moins forte que pour les Britanniques. Et surtout, c'est un mauvais moment qui peut s'arrêter le jour où on reprend des négociations avec des partenaires qui seront sortis de la seringue idéologique dans laquelle ils se sont mis depuis 2016. En revanche, un mauvais accord, un accord qui ne protégerait pas les intérêts des Européens, qui ne nous protégerait pas contre le dumping, c'est quelque chose qui nous engagerait sur une mauvaise pente pour 30 ans, pour 40 ans, pour 50 ans, parce qu'on aurait signé, qu'on aurait ratifié et qu'on s'en serait engagé. Donc le 31 décembre, ça n'est pas la fin de l'histoire. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut conclure, il faut surtout se décider maintenant, parce que les entreprises de part et d'autre de la Manche ont besoin de savoir ce qui va leur arriver le 1er janvier, parce que s'il n'y a pas d'accord, on doit prendre des mesures d'urgence, simplement pour permettre, par exemple, qu'on ne ferme pas le tunnel sous la Manche. Si on ne prend pas ces mesures d'urgence, il n'y aura pas de camions qui pourront passer, il n'y aura pas d'avions qui pourront se poser, donc il nous faut quelques semaines pour pouvoir voter ces mesures d'urgence. Donc c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que Boris Johnson nous dise ce qu'il veut vraiment. Et ça, c'est la vraie difficulté. Je pense que depuis des mois, Boris Johnson veut faire porter à l'Union européenne la responsabilité de ce qui se passe. Or, il est responsable politique, il a voulu ce poste de Premier ministre, il faut qu'il en assume les conséquences. S'il ne veut pas d'accord aujourd'hui, ou simplement s'il n'est pas prêt politiquement à faire passer un accord acceptable par nous, c'est à lui de le dire, c'est à lui de dire « no deal », mais je le soupçonne de préférer que ce soit d'autres qui le disent à sa place.
John Henley, je vous réserve toujours les questions difficiles, vraiment en très peu de temps. Est-ce que les Européens peuvent faire confiance, peuvent avoir confiance dans les Britanniques qui viennent de renier leur signature sur une partie de l'accord de retrait à propos de l'Irlande du Nord? Vous avez 30 secondes.
C'est une très bonne question. Et c'est à mon avis, je pense qu'on pourrait quasiment mettre un quatre, avec ces questions de la pêche, de la concurrence équitable et la gouvernance, le quatrième grand obstacle pour moi à un accord à cet instant, c'est justement ce manque de confiance que les Européens ont maintenant vis-à-vis du gouvernement britannique qui, comme vous le dites, Daniel, ça devrait passer demain, ce projet de loi, the Internal Market Bill, c'est-à-dire un projet qui rompt avec un traité, donc avec le droit international signé dans l'accord de sortie, et le gouvernement britannique insiste maintenant qu'il refuse d'accepter. Je pense qu'il y a véritablement une question de confiance et à quel point est-ce que les Européens sont prêts à accepter des promesses. Je pense qu'ils ont raison de tout vouloir vraiment bétonner et être absolument sûr que les points sont sur les i et que cet accord sur l'avenir, sur la relation future est vraiment que les Anglais ne pourraient pas dans l'avenir
revenir sur leur signature et leur parole. Jean-Dominique Junier, vraiment d'un mot, en 30 secondes, Boris Johnson n'arrête pas de dire à qui veut l'entendre, on va commencer la vaccination contre le Covid mardi, c'est grâce au Brexit. Vrai ou faux ?
C'est un mensonge absolu, n'est-ce pas ? Le Royaume-Uni est toujours sous la loi européenne jusqu'au 31 décembre. La loi européenne en la matière fait qu'il y a une autorité européenne qui examine des vaccins. Elle n'a pas terminé d'ailleurs, mais les autorités nationales ont toujours la possibilité d'anticiper. C'est elles qui décident et qui ont la compétence finale. C'est la clause qu'a utilisée le Royaume-Uni, avec une emphase...
Les autres Européens auraient pu le faire, s'ils avaient voulu.
Oui, absolument, avec une emphase extraordinaire, disant on est les premiers au monde, on va sauver l'humanité. Je rappelle quand même que les vaccinations ont commencé déjà en Chine et en Russie.
Merci à tous les cas d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Claude Battista, avec Sacha Michel de Courrier International. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe, le site RFI.fr, rubrique podcast, où vous pourrez également vous abonner via votre plateforme favorite, par exemple Google, Apple ou Deezer. Daniel Desescales, où vous soyez à Londres, Bruxelles, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine. Mais tout de suite, sur la radio de l'Europe et du monde, le journal vous est présenté à l'instant par Loïc Bussière. Au revoir.